Bonsoir, bonsoir. Donc, bienvenue à bord du NoSCAF, du NoSCAF de Silicon Maniac. Je suis donc Yann Min, j'étraîne au J9. Je commence une série donc de 4 émissions. J'ai été invité, je suis hébergé par Silicon Maniac pour vous proposer donc 4 émissions d'une heure qui seront un voyage à bord de mon NoSCAF. C'est-à-dire, j'ai transformé le studio de Silicon de Maniac en NoSCAF, en véhicule pour explorer la noosphère. Et donc ensemble, nous allons voyager dans les contes de la noosphère. Et là, je suis aux commandes du NoSCAF, en copilote à côté de moi. Il y a Denis Quentin.
Bonjour, bonsoir Yann.
Voilà, donc nous sommes tous les deux à bord d'un vaisseau. Et là, vous entendez derrière nous l'ambiance sonore qui règne autour de nous dans le monde virtuel. C'est-à-dire que, vous ne le voyez pas, mais nous sommes immergés actuellement dans un monde virtuel que j'ai créé et nous entendons autour de nous les ambiances sonores de ce monde-là qui vont nous accompagner pendant cette heure de voyage. Alors, je suis là pour vous... j'ai le plaisir de vous inviter à voyager avec moi, avec nous, avec Quentin aussi, dans une petite partie de la noosphère. Je vais vous expliquer justement ce qu'est la noosphère, quel est ce monde dans lequel nous allons voyager, et ce que j'ai appelé donc les contes noosphériques. Et à chacune de ces 4 voyages, je vous raconterai une histoire fantastique, emblématique de notre cyberculture. Je vous raconterai aussi ce soir les préquels des récifs, et ainsi les récifs qui sont une anomalie virtuelle qui est en train d'émerger dans la réalité. Alors, à nouveau, bienvenue à bord du NoSCAF. Alors, je vous préviens aussi, ici, le GIC, moi, parle de geeks, les no-notes au cyberpunk. Et nous n'allons pas explorer le cyberespace vanilla et mainstream qui se répand actuellement dans nos villes et nos musées. Je vous confie plutôt une immersion dans la hard cyberculture, celle qu'on ne rencontre qu'à la demeure du chaos, à Souterrain Porte 6, au Totem à Nancy ou au Festival Aliénor de Lille. 4 émissions donc, et dont la dernière sera consacrée au cybersexe. Mais on va y aller progressivement. Cette première émission Silicon Maniac des contes de la noosphère sera consacrée à la métaphore poétique de l'artiste vu comme un noonaute, un explorateur de la noosphère. Je vais vous parler de Théard de Chardin, d'Albert Wiener, de l'inventeur de la cybernétique, de la genèse des récifs qui est une anomalie virtuelle, un monde persistant émergeant dans notre cosmos, et je terminerai avec 2 contes informatiques et en particulier l'histoire de Gilles, l'histoire d'un cyberpunk au XXe siècle, du junkie punk romantique autodestructeur sans diplôme qui est devenu directeur technico-commercial d'une multinationale informatique. Mais commençons alors les noonautes. Alors je suis un peu obligé, je vais dire, vous citer avant de commencer Norbert Wiener qui est l'inventeur de la cybernétique, et je vais vous citer une formule de Wiener que j'adore. Les messages, c'est Wiener qui écrit ça dans Cybernétique et Société en 1950. Les messages sont eux-mêmes une forme de modèle, de pattern et d'organisation. En effet, il est possible de considérer les séries de messages comme ayant une entropie à l'égard des séries d'états du monde extérieur. De même que l'entropie est une mesure de désorganisation, l'information fournie par une série de messages est une mesure d'organisation. En fait, il est possible d'interpréter l'information fournie par un message comme étant essentiellement la valeur négative de son entropie et le logarithme négatif de sa probabilité. Oui, je sais, c'est du chinois, mais Wiener essaie de nous aider un peu après et il dit, c'est-à-dire, plus le message est probable, moins il fournit d'informations. Les clichés ou les lieux communs, par exemple, éclairent moins que les grands poèmes. Alors j'adore cette citation de Wiener parce qu'en gros, il est en train de nous expliquer que transmettre une information, si c'est une information simple, on la transmet simplement. Mais par contre, si c'est une information complexe, elle se transmet de façon complexe. Et là, je vais vous transmettre des informations complexes. Umberto Eco reprend un peu, paraphrase un peu Wiener plus tard dans L'œuvre ouverte. Il dit... Seulement de tout cela, on doit conclure que l'ordre qui règle l'intelligibilité d'un message détermine également son caractère prévisible, en d'autres termes, sa banalité. Plus un message est ordonné et compréhensible, plus il est prévisible. Les messages de vœux et de condoléances qui se plient à des critères de probabilité extrêmement limités ont une signification très claire, mais nous apprennent fort peu de choses que nous ne sachions déjà. Donc, nous allons aborder des choses compliquées pendant ces 4 heures, mais que je vais m'efforcer quand même de rendre le plus explicite possible. Et on va d'abord voyager dans la noosphère donc de Théard de Chardin. Théard de Chardin, Théard de Chardin, c'est un prêtre jésuite, un aventurier de la noosphère, un aventurier aussi de la biosphère, du monde réel. C'est quelqu'un qui s'est, comment dire, qui s'était embarqué dans la croisière jaune, c'est la croisière Citroën, si je me rappelle bien, qui a inventé un concept qui est donc le concept de noogenèse, deux concepts qui sont le concept de noogenèse et de noosphère. Et c'est, ce qui est intéressant dans l'histoire de Théard de Chardin, c'est que donc il est mort en 1955, c'est que toute sa vie il a essayé de communiquer sur ses illuminations, moi j'appelle ça des illuminations, et sa hiérarchie vaticane et jésuite lui a interdit toute sa vie de communiquer, et comme il était respectueux de sa hiérarchie, il a respecté le vœu donc de sa hiérarchie de ne pas communiquer, donc c'est à titre posthume que sa cousine va faire paraître ses écrits et qu'on connaîtra la pensée de Théard de Chardin. Et alors Théard de Chardin, donc, qui est un chrétien qui est jésuite, est aussi un paléontologue et il est à la recherche des origines de l'humanité. Il est aussi à la recherche de comment concilier le dogme et la religion. Alors je précise bien d'emblée que moi-même je ne suis pas chrétien et je suis même plutôt athée, mais par contre il y a dans l'illumination de Théard de Chardin quelque chose d'excellent qui m'a incité à inventer, à forger ce néologisme de noonaute, c'est-à-dire d'explorateur de la noosphère. En gros, je vais vous expliquer ce qu'est le concept de noosphère. Je vais essayer de résumer ce qu'est le concept de noosphère par Théard de Chardin. Il constate qu'à travers ses voyages, ses pérégrinations, et ça, il explique dans son livre qui s'appelle « Le phénomène humain », à moins 50 000 ans, entre moins 50 000 et moins 30 000 ans, il y a un phénomène étrange qui apparaît dans l'histoire de l'humanité. C'est que on voit apparaître un espace informationnel commun avec des archétypes dans les cavernes. L'art pariétal nous montre que les humains qui sont éparpillés sur la planète, qui sont pas ou à peine connectés entre eux, vont commencer à exprimer, à représenter, à reproduire un espace informationnel qui se traduit par les peintures pariétales avec des archétypes communs. Et ça, ce moment-là, Théard de Chardin l'appelle la no-genèse, le moment où le no apparaît. Et les humains se connectent, se rencontrent, le temps évolue et va apparaître à ce moment-là la noosphère, c'est-à-dire que cet espace informationnel qui englobe l'humanité devient de plus en plus grand, grandit, devient gigantesque et ça va donner les bibliothèques, la parole, la musique, la danse, la télévision, maintenant l'internet, c'est-à-dire que nous sommes englobés dans un espace informationnel gigantesque. Cet espace a deux dimensions, une dimension, je dirais, rationnelle, la cybersphère, qu'on peut appeler la cybersphère et qui est mesurable, c'est-à-dire qu'on peut mesurer l'influence et la taille de l'espace informationnel qui nous entoure, comme par exemple cette émission de radio dans laquelle nous sommes fait partie de la cybersphère. Et par contre, quelle est la différence donc entre la cybersphère et la noosphère? Alors, le noosphère a un préfixe qui est le mot no. No vient du grec. On va le retrouver chez Platon aux origines. Et ça veut dire spiritualité. C'est dans Éthique à Nicomaque, hein, c'est un des outils qu'utilisent les Grecs, ils n'ont pas encore la science, qui en a ses balbutiements. C'est un des outils, le noo, qui fait partie, un outil cognitif qui permet de comprendre le monde, avec la phronésis, l'épistème, la sophia, la techné et le noo. Noo, c'est la spiritualité, c'est l'esprit. Et donc la noosphère, c'est la sphère de la spiritualité. Et ce qui est intéressant dans l'intuition de Théard de Chardin, dans la pensée de Théard de Chardin, c'est qu'il va inverser la relation que nous avons à l'information. C'est-à-dire qu'au lieu de raisonner dans le sens, je dirais, rationnel, de penser que c'est les humains, le monde vivant, qui génère de l'information, Théard de Chardin pense que la noosphère génère l'humanité. C'est-à-dire c'est la noosphère qui nous génère, c'est la noosphère qui va qui est le moteur de départ, qui va générer donc c'était à la fois l'humanité et à la fois l'espace informationnel qui nous environne, donc la cybersphère. Et comment il s'appelle déjà, j'ai un blanc, Théard de Chardin, voilà. Pour Théard de Chardin, cette noosphère, cet espace informationnel est une entité métaphysique à part entière. C'est-à-dire c'est un être vivant. C'est un être vivant qui appartient à l'espace métaphysique. Et cet être vivant qui est qui préside à notre destinée. Alors il est millénariste, Théodore de Chardin, c'est-à-dire que il pense que la noogenèse, c'est la naissance de cet être métaphysique, et qu'il est en train de grandir, et que lorsqu'il arrivera à sa maturation, on en est très très loin, ça sera la fin de l'histoire. Ce qui est intéressant, et en tant qu'auteur et artiste, en tant que noonaute, et nous sommes tous actuellement des noonautes, puisque vous m'accompagnez dans ce voyage dans la noosphère en écoutant cette émission, on sent bien à travers notre travail artistique qu'il y a quelque chose qui dépasse, qui échappe au rationnel lorsque nous commençons à créer des œuvres. C'est-à-dire, pour moi, l'art, c'est le plus haut niveau de traitement de l'information de l'humanité. Et si on reste dans la logique de la cybersphère, on sent qu'il y a autre chose. On perçoit de façon intuitive que la création artistique, les œuvres, la relation aux œuvres, a une dimension qui est de nature sans doute métaphysique, et qui appartiendrait donc à cet espace qu'est la noosphère. Et donc, il y a une pertinence à exprimer, à décrire un espace informationnel au-delà de nous-mêmes, qui engloberait donc la cybersphère. C'est pour ça que j'appelle ça je nous appelle les noonautes, les explorateurs donc de la noosphère. Alors, pour en finir avec donc Théard de Chardin, ce qui est rigolo, c'est que dans son bouquin donc Le phénomène humain, il va provoquer les foudres de sa hiérarchie vaticane, c'est-à-dire que à la fin donc tout le livre est assez rationnel hein, globalement, mais à la fin il y a un petit paragraphe donc où il commence à décrire cette dimension métaphysique de la noosphère, mais il va même plus loin. Et pour Théard de Chardin, la noosphère, c'est un Christ, hein, c'est un Christ cosmique. Évidemment, le Vatican va réagir immédiatement en disant non, on arrête de communiquer là-dessus. On a mis suffisamment longtemps à essayer déjà de se mettre d'accord sur la définition du Christ hein, sans qu'on en rajoute avec une notion de Christ cosmique. Donc, cette illumination, parce que je pense que c'est une illumination, Théard de Chardin restera discrète, secrète pendant pas mal d'années, jusqu'à ce que son livre paraisse après sa mort en 1955. Je pense qu'il est possible, et c'est ce que je fais moi, donc d'investir le concept de noosphère et de noonautes sans forcément le charger, sa dimension chrétienne. C'est-à-dire de regarder la noosphère comme une entité métaphysique, comme une dimension immatérielle. Et cette notion d'immatérialité, on va la retrouver beaucoup plus tard, avec quelqu'un comme Norbert Wiener, paradoxalement. C'est-à-dire qu'on a deux penseurs dans la... Quand je dis beaucoup plus tard, c'est simultanément, dans la même période. Norbert Wiener, qui est un scientifique américain mathématicien, va avoir une relation à l'information, va redéfinir la notion d'information avec une approche rationnelle, et va arriver à peu près à la même réflexion, à investir l'information d'une dimension quasi métaphysique. Mais je vais y arriver. Alors, entre-temps, je vais vous faire écouter un petit film qui raconte cette histoire des noonautes. Donc c'est la bande son qui est un film. Alors je vous raconte aussi comment ce film a été fait. Ça fait partie de mes petits contes noosphériques. Je vais vous faire écouter la bande son donc de Noogenesis, qui est un court métrage en image de synthèse, dont la voix off a été faite par Octavie Pierron. C'est Octavie Pierron qui dit le texte que j'ai écrit et qui est paru dans le livre Traverse des Itroubadours. Et donc on est parti pour 5 minutes de Noogenesis. Alors là je me dirige vers l'écran, je dirige le Noscap vers l'écran, et on va monter le son émanant de l'ordinateur dès que ça va démarrer. Et voilà.
J'appartiens à ce futur passé, dans lequel ce n'était plus nous qui manipulions les joysticks, mais les joysticks qui nous manipulaient. Fusionnant avec nos unités centrales et nos microprocesseurs robotisés, nous nous immergions avec délectation dans les réseaux des réseaux, à la recherche de ce que nous étions devenus, sans avoir jamais compris ce que nous étions déjà. Et c'est ainsi que nous avons, sans nous en être rendus compte, libéré la noosphère des chaînes qui nous en protégeaient. Je n'étais qu'un noonaute, un simple pèlerin noosphérique qui, aux commandes de Noscaf volés aux grands armateurs, espérait juste explorer les confins de la noosphère en quête des entités légendaires qui l'habitaient. J'étais l'un d'eux. L'un de ces fous inconscients avides de grands espaces inexplorés, qui, transgressant les interdits, ont ouvert les portes aux anges et aux démons noosphériques. Cela s'est passé au tout début du XXIe siècle, à l'aube de l'ère biolithique. À cette époque, comme beaucoup d'autres noomatelots promus commandants de vaisseaux, je n'étais qu'un petit capitaine de super Nooscaf. Un mercenaire de l'information sans foi ni éthique, vendu aux intérêts des compagnies marchandes, dont je pilotais les grandes nefs fragiles et coûteuses à travers les océans informationnels. Je livrais mon fret commercial de Nohamburger d'un bout à l'autre des grands empires de la communication, et j'aurais pu me contenter comme les autres de faire cela toute ma vie. Mais un jour, las d'emprunter toujours les mêmes lignes balisées des productions commerciales et populaires, las d'essayer en vain de convaincre mes employeurs d'explorer d'autres voies, je me suis construit en secret mon propre Nooscaf. Jour après jour, j'ai volé sur les Noocargos les pièces détachées nécessaires à la construction de ma petite navette furtive. Un Nooscaf miniature et agile, qui allait me permettre d'explorer ces nouveaux confins inaccessibles et dangereux, entreaperçus lors de mes transports noosphériques commerciaux. Je l'avais équipé de noo-processeurs puissants, car je voulais pouvoir franchir la barrière des récifs informatiques et remonter les courants contraires des flux archétypaux. À force de pugnacité, j'ai suivi les traces laissées par les grands noo-explorateurs que j'admirais, et j'ai réussi, moi aussi, à franchir les frontières des confins inexplorés. J'ai connu l'ivresse des grands espaces noosphériques. J'ai voltigé dans la lumière originelle de firmaments virtuels inconnus, aveuglés par les feux lointains de la noogénèse. Et c'est là que, tel un papillon illuminé, virevoltant entre les rayons du soleil alpha, j'ai découvert le Noo-sanctuaire, la Noo-crypte cachée dans la clarté noosphérique. J'étais juste un petit Noo-capitaine inconscient, ivre de grands espaces, et qui ne savait pas ce qu'il faisait. Je suis entré dans la Noo-crypte, et comme tous les orgueilleux qui m'avaient précédé, je vous ai rencontré. Vous m'avez reconnu et vous m'avez parlé. Vous m'avez montré l'ineffable et dit qu'il n'existait pas. Désormais, je hante les firmaments noosphériques sans savoir si je suis triste ou heureux, si je pleure ou si je ris.
Alors voilà, c'était donc Noogenesis, hein, c'est un court-métrage que vous pouvez aussi voir sur internet, il est sur internet avec la très belle voix d'Octavie Pierron, et sur un texte que j'ai écrit pour Traverse, le livre voyageur de Karen Guillorel et Daisy Troubadour. Alors je continue mon petit voyage donc noosphérique avec vous, et je vais juste vous raconter un petit conte aussi de l'informatique et comment ce court-métrage a été réalisé, dans quel contexte, parce que c'est une histoire, je dirais, emblématique ou amusante. En fait, ce qui se passait, c'est que je fais de l'image de synthèse, hein, c'est mon métier, c'est de fabriquer des musées virtuels et de l'image de synthèse, et je travaillais pour un gros groupe de cosmétiques. Et les calculs, pour ceux qui ne le savent pas, les calculs d'image de synthèse sont faits dans des render farms, ce qu'on appelle des render farms, c'est-à-dire des fermes de calcul avec plusieurs dizaines d'ordinateurs qui calculent chaque image mettant entre 15 minutes et 20 minutes à calculer. Et la render farm que j'utilisais était la moins chère de la planète, c'était une render farm qui utilise pour un logiciel qui s'appelle Cinema 4D, qui est à Miami. Donc les calculs pour ce film industriel étaient calculés à Miami. Et un jour, je reçois un mail du propriétaire de la render farm qui me dit « Yann, dépêche-toi de terminer tes calculs parce que d'ici 3 jours, la render farm sera out ». Alors là, comme la dernière fois qu'il m'avait envoyé ce message-là, c'était parce que sa femme était enceinte et allait accoucher, donc je lui demande, t'as un nouvel enfant? Et là, je reçois immédiatement une image qui m'arrive par Internet, et je vois une image satellite. Il m'envoie une image satellite où on voit un gigantesque cyclone qui s'appelle Frances, qui est en train de se diriger vers Miami. Et en fait, en gros, il anticipe le fait que très certainement la Render Farm sera coupée du monde, Miami sera coupée du monde à l'arrivée du cyclone. Et donc je me suis retrouvé dans cette situation extraordinaire, qui est une vraie situation, je dirais, cyberpunk, qui est emblématique de notre modernité, à faire la course avec un cyclone. C'est-à-dire que on se croit derrière nos ordinateurs un peu dans des mondes aseptisés, protégés du réel. Et là, je me retrouvais avec le réel qui me rejoignait sous la forme d'un gigantesque cyclone dont j'ai suivi chaque jour l'évolution et la traversée de l'océan vers Miami. Et dès que les premières volutes du cyclone sur les images satellites ont touché Miami, la Render Farm est tombée en panne. J'avais prévu le coup. Et ce qui s'est passé, c'est que donc 15 jours plus tard, lorsque tout est revenu normal, Dan, le propriétaire de la Render Farm, m'a contacté et m'a dit, comme j'avais pas été embêtant, en fait, je m'étais débrouillé, il m'a dit, bah, je t'offre en dédommagement un mois de calcul gratuitement. Et là, je me suis dit, si j'ai un mois de calcul gratuit, je vais pas l'offrir à la production commerciale pour laquelle je bossais. Je me suis dit, je vais les garder pour moi pour faire une œuvre, pour faire une œuvre de création. Et c'est comme ça qu'est né Noho Genesis, c'est-à-dire que j'ai conçu ce petit court-métrage que vous pouvez donc voir sur l'internet avec la voix d'Octavie Pierron, et j'ai profité de ce cadeau qui m'avait été fait grâce à Saint-Cyclone pour produire et calculer toutes les images dans la Render Farm du Miami. Donc voilà, petite anecdote, petit conte, un des petits contes de l'informatique, vous en allez pendant ces quatre émissions, je vais vous en raconter quelques-uns. Alors bien évidemment, hein, vous avez compris que cette émission, comme ses contes, c'est le geek qui parle au geek. C'est une culture particulière et qui est un peu réservée aux grands immergés des noscaf informatiques. Alors je vais passer à l'autre partie, un autre personnage qui me fascine, donc que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est Norbert Wiener. Norbert Wiener, c'est le... Alors, une question que j'aime poser souvent et que je vais vous poser, là, réfléchissez-y, c'est vous connaissez le mot cyberpunk, hein, le mot cyberespace, hein, cyberculture. Et alors, cyber, d'où vient ce mot cyber? C'est très intéressant parce que souvent, même devant des assemblées importantes, lorsque je fais mes conférences, eh bien, il n'y a que sur 50, 100 personnes, 4, 5 seulement, qui savent d'où vient le mot cyber, alors que c'est un des mots fondamentaux, je dirais, de notre culture, de notre évolution. Alors je vais vous raconter, parce que c'est en travaillant pour une émission que j'ai faite pour la 5e sur l'histoire des robots et pour le CNAM, que moi-même j'ai découvert tardivement l'importance de ce préfixe cyber. Ce mot cyber est très ancien, en fait, il date de Platon aussi. Il apparaît dans les réflexions de Platon sur la cité. Il vient donc du grec kubernetike, mais ses origines ne sont pas très intéressantes. C'est-à-dire que si Platon s'en sert pour comparer, en fait, faire une analogie entre le pilote du navire et le contrôle de la cité, le pilotage d'une cité. Ce qui va donner toute sa force à ce terme, au mot cyber et au terme de cybernétique, donc, qui vient donc de kubernetike, hein, du grec kubernetike, le pilote du navire, c'est Norbert Wiener, un mathématicien américain, qui... dès 1942 et jusqu'à 1948, va développer une pensée particulière. Alors, je vais vous raconter donc Norbert Wiener. Norbert Wiener, donc, c'est donc un mathématicien, et il est engagé par l'armée de l'air américaine pour mettre au point un système d'asservissement des batteries de DCA sur les radars. Juste entre parenthèses, parce que le contexte militaire peut donner une mauvaise impression de Wiener. Il faut penser que Wiener est un peu, malgré tout, antimilitariste, et c'est un des rares scientifiques à avoir refusé de bosser sur le projet Manhattan de l'armée américaine. Et il va dénoncer d'ailleurs le totalitarisme régulièrement, le pouvoir totalitaire de l'armée, en fait. Mais revenons donc sur Wiener. Alors c'est très très bien raconté, pour ceux qui veulent en savoir plus, hein, dans le livre de Philippe Breton qui s'appelle L'utopie de la communication, que je vous conseille. Wiener donc est donc en charge par l'armée de l'air américaine d'asservir les batteries de DCA sur les radars. Il y a une autre équipe qui bosse dessus, d'ailleurs le projet de Wiener ne sera pas retenu, mais Wiener en même temps va réussir à résoudre le problème, et il va inventer les fameux algorithmes de la cybernétique qui vont être exploités en informatique pour la robotique, et qui vont aussi amorcer l'invention de la systémique. On parle moins de cybernétique maintenant, mais plutôt de systémique. Ce qui se passe, c'est que du coup, on va oublier que Wiener n'est pas seulement un mathématicien. C'est-à-dire, Wiener, c'est quelqu'un qui a un diplôme de philosophie, un diplôme de zoologie, pardon, de Harvard. Il enseigne la philosophie aussi à Harvard. Donc, il est à la fois zoologue et philosophe. Et Wiener va investir le concept de cybernétique d'une dimension qui n'est pas seulement mathématique, pas seulement technique, pas seulement informatique, mais aussi philosophique. Et la cybernétique s'applique non seulement aux robots et aux machines, mais aussi à l'ensemble du vivant. Et j'ai une façon assez ludique d'expliquer justement cette dimension de la cybernétique, cette partie de la cybernétique. C'est, en fait, il ne faut plus qu'on raisonne, on vise une cible et on tire. Il faut qu'on raisonne, il faut que deux objets se retrouvent au même endroit au même moment. Pour que cela soit possible, il faut qu'un des objets, donc le missile ou la torpille, soit capable de percevoir son environnement, même de façon sommaire. Ensuite, il faut que cet objet puisse interpréter ce qu'il perçoit. Et ensuite, qu'il ait un système moteur qui lui permette de modifier sa trajectoire. Donc, le principe de la cybernétique, c'est ça, c'est qu'on a des capteurs, même sommaires, un système moteur et entre les deux, un système de traitement de l'information. C'est le système de traitement de l'information qui est prépondérant. Donc là, pour l'instant, je vous décris un système très technique, c'est un peu rébarbatif. Et là où c'est rigolo, c'est que Wiener va partir en live. En gros, je vous mime Wiener, hein, je ne pense pas que ça se soit passé exactement comme ça, mais c'est assez amusant d'imaginer Wiener en train de faire sa conférence à Massy, en train d'expliquer déjà ce que je viens de vous expliquer. Et puis il dit, mais là, ce que je viens de vous expliquer, ce que je viens de vous dire, hein, on perçoit notre environnement, on interprète ce qu'on perçoit et on modifie notre comportement. Eh bien, tout le vivant fait ça. Tout ce qui est vivant, vous qui m'écoutez, les animaux, passent leur temps à percevoir, même de façon sommaire ou sophistiquée, leur environnement, à interpréter ce qu'ils perçoivent et à modifier leur comportement en fonction de ce qu'ils perçoivent. Wiener vient de donner l'une des définitions, pour l'instant, les plus pertinentes de ce qu'est l'humain et de ce qu'est le vivant. C'est-à-dire qu'il va aller en disant, il va aller jusqu'à dire en fait que... alors faut penser, c'est Philippe Breton qui l'explique très très bien d'ailleurs dans l'utopie de la communication, c'est qu'on sort de la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques sont un peu culpabilisés par le fait d'avoir participé à cette espèce d'holocauste où la science a joué un rôle très important, l'invention de la bombe atomique, et on sort aussi du darwinisme social, c'est-à-dire cette espèce d'utilisation du darwinisme pour éliminer les personnes les plus faibles qui a été exploitée par les nazis en particulier. Et Wiener va aller à l'encontre de ça. En fait, sa démarche, c'est de dire ce n'est pas le prédateur le plus fort qui survit. Le darwinisme social, c'est le prédateur le plus fort qui survit. Un lion, un tigre, un requin sont bien mieux adaptés que les humains à survivre. Hein. Ils ont des capteurs, ils ont des systèmes moteurs beaucoup plus puissants. Ce qui caractérise la hiérarchie du vivant, c'est le traitement de l'information. Plus un organisme aura un système de traitement de l'information sophistiqué, puissant, plus il assurera sa suprématie sur les autres espèces. Et donc, du coup, l'humain, à partir de cette idée-là, l'humain devient une créature informationnelle. On rentre dans un nouveau paradigme, c'est le monde de l'information, c'est le monde moderne, c'est le traitement de l'information. La cybernétique est donc une sorte de base, comment je pourrais dire, philosophique, à la définition contemporaine, à la fois et de l'humain, en termes de créature informationnelle, et aussi de l'art. L'art, pour moi, dans un point de vue cybernétique, c'est du traitement d'information et l'un des plus hauts niveaux, sinon le plus haut niveau de traitement de l'information de l'humanité, puisque pour moi, l'art englobe la science, qui est aussi un très haut niveau, et la philosophie. Il est au-dessus de la science et la philosophie. Et là, je rejoins Terre de Chardin, où je pense que, justement, la noosphère est un espace informationnel. Alors, dernier point sur Wiener. Wiener voit l'humain comme du feu, c'est-à-dire qu'on se renouvelle en permanence. Nous sommes une espèce de créature en constante mutation et transformation. Et Wiener va même formaliser l'idée que, même au-delà du vivant, le vivant étant de nature informationnelle, il se peut, et ça les dernières recherches en mécanique quantique, réflexions autour de la mécanique quantique semblent le confirmer, que la nature même, la structure même de l'univers serait de nature informationnelle. Et donc à partir de là, on inverse notre relation, exactement comme je disais tout à l'heure dans l'émission de Quentin sur Blade Runner, c'est-à-dire de regarder la science-fiction comme une entité vivante. On peut inverser notre regard sur le monde et le réel en se disant que c'est l'information qui prédomine, c'est le traitement de l'information. Et alors j'ai une formule, donc une de mes formules provocatrices, qui est de dire à l'issue de cette réflexion à la fois inspirée de Wiener et de Terre de Chardin, c'est que la vie n'existe pas. Voilà, la vie n'existe pas. En fait, la vie, c'est de la matière informée. C'est-à-dire la vie est un processus informationnel qui se sert de la matière, qui se sert du réel, du monde physique, pour se formaliser, se matérialiser d'une certaine façon, surtout se perpétuer et se complexifier. Si on remonte dans notre histoire, les traces du vivant ont disparu. C'est-à-dire qu'on n'a plus que des fossiles qui n'ont plus de vie à l'intérieur. Mais la vie existe toujours. La vie existe toujours, se répand, se complexifie, devient de plus en plus complexe, mais son existence matérielle est éphémère. Donc la vie n'existe pas. Elle est sur un plan métaphysique, en dehors de la physique, pas forcément d'ailleurs dans un sens mystique, hein, dans un sens immatériel, dans le sens de l'immatérialité de l'information. Et donc nous rentrons dans une ère, le 21e siècle, c'est l'ère où l'information, nous commençons à formaliser la notion d'information comme quelque chose qui a une dimension, comment on pourrait dire, elle est là sur un plan métaphysique et influe sur le plan physique. Voilà, donc ça c'était la parenthèse Norbert Wiener, et je vais continuer ma quête de l'absolu, notre petit voyage dans la cybersphère, en vous parlant maintenant de... Alors, je suis désolé, hein, mes émissions seront... Il y aura très peu de pauses, très peu de musique, ça va être un long bavardage. Je vais vous parler de l'univers dans lequel nous sommes là, actuellement. C'est-à-dire que j'utilise actuellement, pour faire cette émission... et vous l'entendez en bruit de fond, un logiciel qui s'appelle Unity 3D. Et donc j'ai modélisé un univers 3D temps réel dans lequel je me balade actuellement avec le Nooscaf, avec Quentin ici à Silicon Maniac. Et autour de moi, dans cet univers virtuel, il y a des sons. Il y a des objets qui génèrent des sons. Et ces objets qui génèrent des sons créent l'atmosphère sonore dans laquelle nous sommes. Et pourquoi j'insiste sur cette dimension de la 3D temps réel, très, un peu rébarbatif en termes d'explication, et puis très technique, c'est parce que, en fait, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, et je crois que nous sommes nombreux dans ce cas-là, je suis issu d'une lignée phylogénétique, qui date de l'aube de l'humanité, qui est de l'époque de l'âge des cavernes, où nous tentons de reproduire de façon métaphorique un processus cognitif fondamental, un processus cybernétique, c'est-à-dire nous tentons de reproduire un monde virtuel, un monde à l'image du monde réel, qui serait, alors ça c'est le futur des holodecks de Star Trek, hein, le rêve c'est le jour où nous arriverons à fabriquer un monde, un environnement dont on ne pourra plus faire la différence entre le monde réel et le monde simulé, le monde immatériel. Et on a cette démarche, on retrouve cette démarche dès l'origine de l'humanité, c'est-à-dire les cavernes, quand on pense aux cavernes préhistoriques. Actuellement, les représentations que nous avons des cavernes préhistoriques, c'est des photographies ou des films qui sont faits avec des mandarines, enfin avec des projecteurs, des lampes. Et il faut pas oublier qu'à leur époque, ils s'éclairaient avec des torches et qu'ils ont beaucoup exploité les ronde bosses. Alors les torches, les flammes bougent, donc les ronde bosses font bouger les animaux. On est donc dans un espace immersif où on a de la simulation du vivant, déjà dès l'époque, une envie de voir bouger nos représentations. Et à la Renaissance, on va avoir aussi, à travers Bruegel par exemple, ou des gens comme Velázquez et l'invention de la perspective, une augmentation de la qualité de représentation, hein, de la simulation du réel à travers la perspective. Et j'imagine bien Bruegel voyager dans sa tour, voyager dans sa grande construction de la tour de Babel. Il raconte même une histoire, hein. On voit, quand on regarde dans les détails de ce petit tableau, il y a les bateaux, il y a les constructeurs, il y a les bateaux qui amènent l'approvisionnement. On a une démarche immersive chez Bruegel. Et cette démarche immersive se concrétise actuellement à travers les jeux vidéo, à travers les mondes persistants, à travers les avatars. C'est-à-dire qu'on a, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ayant fait plusieurs grandes écoles d'art, on m'a raconté l'espèce de storytelling sympathique et mignon, d'ailleurs, qui a été inventé par les impressionnistes eux-mêmes, de dire que la figuration réaliste avait été abandonnée, qu'elle était has-been, parce que la photo avait affranchi les peintres du travail de portraitiste réaliste. Et effectivement, tout le champ des arts plastiques, c'est embarqué, c'est rentré dans une lignée qui va de l'impressionnisme au cubisme, à l'abstrait, puis au conceptuel, donc la disparition, hein, de la figuration réaliste, et avec aussi en filigrane derrière une espèce de hiérarchie élitaire de dire que la figuration réaliste est ringarde et has-been. En fait, si on regarde l'histoire de l'humanité, c'est bien le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire que à partir de la figuration réaliste a continué, non seulement elle a continué, mais elle s'est amplifiée, sophistiquée, compliqué, complexifié à une échelle à la fois économique et artistique de très 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 grande envergure. C'est la photographie, c'est le cinéma, c'est la télévision, ce sont les jeux vidéo, maintenant les mondes persistants et dans le futur à venir très proche, les univers immersifs en 3D temps réel, où la création immersive joue un rôle, la simulation immersive et l'illusion immersive jouent un rôle prépondérant avec l'arrivée aussi de systèmes de stimulation physique en interaction avec le monde virtuel. Et donc moi je suis issu de cette lignée artistique et je la revendique, hein, qui est la lignée de ceux qui aiment la chair, l'image, la forme pour la forme, la technique pour la technique. Voilà, et c'est donc la figuration immersive ou l'hyperréalisme immersif. Et donc je continue. Et dans cette démarche-là, il m'est arrivé quelque chose d'étrange. Donc là, on va rentrer dans les contes de la noosphère, dans la partie, je dirais, storytelling et magique. Je vais vous amener dans le monde des récifs. En fait, l'histoire se passe il y a... En fait, voilà, je me suis retrouvé catapulté il y a très longtemps dans un monde virtuel, bien avant l'heure. C'était en tour de 1975. Alors vous voyez, là, l'environnement sonore a changé, on est en Bretagne. Et j'avais une 4L et je revenais de la plage, l'Armor Plage, pour bien dire le lieu. Et je vois une jeune fille qui fait du stop. Mais devant moi, il y a une grosse voiture, une grosse voiture. Il y a une 205 de sport avec des planches de surf sur le toit. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si c'était des planches de surf. Enfin, en tout cas, je me dis, bon, j'ai aucune chance de toute façon de prendre cette superbe jeune fille. C'est eux qui vont l'embarquer. Donc, je m'arrête à la station service. Et je redémarre. Et là, contre toute attente, elle est toujours en train d'attendre sur le bord de la route. Donc, je la prends dans ma 4L et je me dirige vers l'Orient qui est à 4 km de là. Et là, pour entamer la conversation, je lui dis, tiens, et qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Et là, elle me répond, si tu commences comme ça, je descends tout de suite. J'ai pas attendu que la 205 passe pour monter dans ta voiture pour que tu me sortes des niaiseries. À ce moment-là, j'ai un grand flash. Je me dis, oh là, il va falloir que j'agisse très vite. Il faut que je trouve quelque chose. Et là, je commence à lui raconter une histoire. Je commence à lui dire, ah ben voilà, en fait, je viens et j'improvise. Je cherche à explorer un monde caché, secret, et qui est. Et je commence à raconter, à faire du storytelling. Ce qui fait que je dépasse l'Orient. Ça dure un bon moment et j'arrive jusqu'à Pont-Aven. Finalement, on descend de la voiture. Je continue de raconter l'histoire et on se retrouve au milieu de la forêt de Pont-Aven. Et là, je suis toujours en train de lui raconter cette histoire que j'ai commencée. Et il se produit un phénomène étrange, c'est-à-dire que je m'aperçois, alors que je suis toujours en train de décrire cet univers étrange que j'ai commencé à inventer, que les passants nous contournent. C'est-à-dire qu'il y a comme une sphère invisible autour de nous, qui fait que les gens nous contournent. Alors je me dis, bon, il y a une telle densité autour de nous que les gens le perçoivent intuitivement et font un grand détour autour de nous. Sauf qu'à un moment, je vois un chien arriver dans le lointain, qui arrive en courant, un chien qui arrive très très vite droit vers nous le long du chemin, et pile arrivé à cette frontière que je percevais, le chien s'arrête net et fait exactement le même tour, c'est-à-dire il contourne la petite clairière dans laquelle nous sommes. Et à ce moment-là, j'ai une vision, la forêt disparaît, le lieu disparaît, et je vois d'immenses rochers, d'immenses monolithes qui dérivent dans les airs, qui sont des éléments de l'histoire que je suis en train de raconter. Mais je les vois autour de nous, je vois que tout d'un coup la petite sphère dans laquelle nous sommes a changé de dimension et s'est retrouvée projetée dans un univers virtuel, un univers magique, fait de rochers gigantesques qui dérivent dans une brume luminescente. Et cette vision va durer à peu près 15 à 20 minutes et nous allons la partager. C'est-à-dire pendant quelques instants, alors que je suis en train de raconter une fiction, en train de faire un travail de conteur en fait, je vais générer une espèce d'illumination, d'illusion, de vision qui va se superposer au réel, un état de conscience modifié qui a été partagé pendant quelques instants. Alors c'est intéressant parce que ce monde que je vais voir, que j'entrevois à ce moment-là, va m'habiter toute ma vie et toutes mes œuvres, toutes mes créations sont autour de cet univers-là qui est immense et qui est très complexe et dont l'archétype est cet infini de rochers dérivant dans les airs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, à l'époque, il y en a très peu. C'est-à-dire, je commence à m'intéresser à qui qui fait des univers de rochers dérivant dans les airs. Donc on a évidemment le château pyrénéen de Magritte qui est largement antérieur. Il y a Roger Dean qui fait les pochettes de Yes qui est du disque Yes Song, où il y a des rochers dérivant dans les airs, mais en fait en gros à l'époque on les compte sur les doigts de la main, ces rochers dérivant dans les airs. Et plus le temps va passer, plus on va les voir se développer à la fois dans les jeux vidéo jusqu'à un sommet absolument incroyable qui est évidemment Avatar, où je vois littéralement la vision que j'ai eue se matérialiser à travers le film de Cameron. Donc on a là un mythe, on a là quelque chose qui est transversal, on a quelque chose qui m'appartient mais qui nous appartient à tous. C'est-à-dire j'ai voyagé dans quelque chose qui appartient, je dirais, au collectif, qui est une entité, moi j'appelle ça des entités noosphériques, ces immenses rochers qui dérivent dans les airs, et nous allons les capter et les reproduire d'une façon ou d'une autre. Et qu'est-ce que sont ces mythes ? Eh bien, si ça se trouve, ce sont des préprogrammations. C'est-à-dire, moi, je les interprète comme des préprogrammations. Le déluge n'est pas quelque chose qui est arrivé, mais quelque chose qui va arriver. C'est-à-dire, nous sommes investis de la préprogrammation qui est de sauver l'humanité, de sauver la vie même. Et donc, on peut regarder les mythes, pareil, d'un point de vue de notre série, c'est-à-dire d'inverser notre regard dessus. Alors, le monde des récifs, c'est un monde de rochers, donc c'est une anomalie. En plus, c'est étonnant parce que déjà à l'époque, je le visualisais comme un monde virtuel. C'est-à-dire que dans un futur probable, quelque part, quelqu'un, par amour pour une jeune femme, va générer à l'intérieur d'un ordinateur ce monde virtuel. Sauf qu'il n'est que virtuel. Et comme la jeune femme a été, son corps physique a été assassiné dans des circonstances dramatiques, il n'existe plus que son alter ego dans un monde virtuel. Mais évidemment, un monde virtuel est un monde factice. Hein. C'est un monde qu'on peut éteindre avec l'ordinateur ou avec le dispositif. Et dans ma fiction, l'inventeur, le chercheur dans ce futur probable, arrivait à modifier la trame de l'espace-temps, la trame du réel, et à injecter le monde des récifs dans le monde réel, c'est-à-dire à faire en sorte que au niveau, en agissant sur la trame informationnelle de l'univers, de faire en sorte qu'un univers imaginaire, un univers noosphérique, se matérialise. Et donc quelque part actuellement dans le monde dans lequel nous sommes, hein, actuellement dans ce monde dans lequel nous sommes vous et moi, il y a dans le cosmos un endroit où dérive un infini de rochers dans une brume luminescente, peuplée de tout un tas de créatures qui nous visitent et qui voyagent entre les futurs probables et les mondes parallèles. Donc ça, c'est le monde des récifs. Alors je vais quitter maintenant ce monde des récifs et ce conte noosphérique pour aller maintenant voir les cyberpunks. Alors, il nous reste, je crois, un quart d'heure, hein, Quentin, c'est ça, qui est avec nous.
Prends ton temps, il n'y a pas de problème.
Ouais. Alors, après le monde des récifs, nous allons terminer donc la soirée sur le cyberpunk. Alors cyberpunk, donc je vous ai fait l'étymologie du mot cyber tout à l'heure, et puis à cyber on va rajouter punk. Punk, c'est voyou. À l'origine, c'est voyou cyber, c'est voyou tout court. Hein. C'est un mot qui vient d'anglais, qui définit en fait un petit voyou, un voyou de petite envergure. C'est un mot extrêmement péjoratif. Et le cyberpunk est donc un voyou cybernétique. Et je me revendique d'être un des premiers cyberpunks, puisque j'ai déjà eu des pratiques, et nous avons tous, en tant qu'artistes, été obligés à un moment ou à un autre d'avoir des pratiques cyberpunk pour pouvoir aboutir nos créations, surtout si on travaille avec les nouvelles technologies. Et déjà en 1982-1983, pour fabriquer mes installations d'art vidéo, je mettais en place des stratégies de voyous cybernétiques, en piratant les studios vidéo, les studios de télévision, en piratant déjà des outils informatiques. Et le mot ne va se populariser qu'autour de 1983, en 84 exactement, à travers le roman de William Gibson, évidemment de romancier, mais c'est pas William Gibson qui invente le mot cyberpunk, c'est Bruce Becht, un musicien qui écrit une nouvelle de science-fiction dans une très belle nouvelle qui est très intéressante à lire, qui s'appelle donc Cyberpunk, et il écrit ses nouvelles autour de 1982-83, et ce mot, qui est repris aussi par Garnett Dozois dans un article, décrit les gens, les auteurs, les artistes, les créateurs, les écrivains qui ont des stratégies et des comportements dans le monde réel de type voyous cybernétique, c'est-à-dire qui piratent ou détournent des instruments, des technologies liées à l'informatique ou d'ailleurs tout simplement à la communication. Et je suis cyberpunk comme beaucoup d'amis, puisque on est obligé en tant qu'artiste, comme c'est des technologies qui coûtent extrêmement cher, soit vous êtes nantis, soit vous bénéficiez d'aides importantes, soit vous essayez de trouver des expédients qui vous permettent d'aboutir vos œuvres. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes rentrés dans une société où tout le monde est devenu cyberpunk. C'est-à-dire qu'en 82, nous n'étions pas très nombreux à être des cyberpunks. Et là, maintenant, vous êtes tous, nous sommes tous des cyberpunks, quasiment. Pourquoi ? Il y a très très peu de gens dans notre modernité, dans le monde industriel, qui n'ont pas dans leur ordinateur de logiciels piratés ou de musique piratée ou de films piratés. À partir du moment où vous avez un film piraté ou une musique piratée sur votre machine, vous êtes un cyberpunk. Et nous sommes rentrés étonnamment dans une société qui a transformé tout le monde en cyberpunk. Alors, cyberpunk, je vais vous raconter une autre conte informatique sur les cyberpunks. Je vais vous raconter l'histoire de Gilles. Gilles, c'est mon frère, qui était un vrai punk à l'origine. Un punk qui était habité par un romantisme assez morbide, qui avait plaqué toutes ses études, qui survivait d'expédients, et qui était vraiment, dont je n'étais pas sûr qu'un jour il survivrait, tellement il était destroy no future dans sa façon de se comporter par rapport au monde et à lui-même. Et Gilles était donc aussi assez drogué, assez junkie. Et un jour, il arrive chez moi à Paris. Donc ça, si on est dans les années 70, hein, 80... Ouais, plutôt 70-80, il arrive et avec sa voix, sa voix de junkie, il me dit « Ouais, est-ce que je peux dormir chez toi là parce que je me suis inscrit à un stage ?» Je dis « Un stage ? Un stage de quoi ?» Il dit « C'est un stage pour être réparateur d'ordinateur. » J'ai un instant de doute et je lui dis « Mais réparateur d'ordinateur ?» Alors, il faut penser à l'époque, hein, ces ordinateurs, il y a très peu de micro-informatique et on va plutôt parler de grosses machines qui valent des millions de francs, les PDP-10 ou les VAX, des choses comme ça. Et je lui dis « Mais un réparateur d'ordinateur, c'est un grand niveau d'études, ça. » Oui, il dit « Ouais, c'est Bac plus 2, Maths P. » « Mais t'as pas ça, toi ?»« Ah, t'inquiète, j'ai fait défaut, il regarde pas. » Voilà. Donc, c'est un vrai cyberpunk. Hein, c'est-à-dire que pour s'inscrire à un stage de formation en informatique, il fait des faux diplômes. Le soir, je le vois arriver avec un copain qui suit le même cours, le même stage que lui. Alors lui, c'était un punk. Le copain, c'est plutôt un babacool. C'est-à-dire il y a juste les cheveux, l'archétype du babacool, avec juste les cheveux et le pétard qui émerge derrière les cheveux. Et il s'assoit à côté de lui, et là, je les vois se mettre à table. Et en fait, le gars en question, c'est un prof de maths hein, qui suit le même stage, et il lui refait tous les cours de maths nécessaires pour comprendre le cours de la journée. J'essaie de suivre, mais je décroche un peu. Et pour aller vite, hein, il va réussir, hein, c'est-à-dire il va réussir le stage. Non seulement il réussit le stage, mais il est reçu major de ce stage-là. Il est immédiatement engagé par la société, la grosse société informatique qui avait créé ce stage-là. Et il va gravir progressivement tous les échelons de l'informatique pour terminer avant de... Malheureusement, il est mort dans un accident de voiture, mais vers la fin de sa carrière, il était directeur technico-commercial pour une des plus grosses multinationales informatiques pour toute la région Bretagne. Et trois voitures, une grande maison, des enfants. Et un jour, il s'assoit dans mon salon. il me regarde et me dit, tu sais, il était avec son attaché caisse, son costard cravate. Et il me dit, tu sais que quand même, avec ta vie d'artiste, tu me stresses. Donc c'est une anecdote rigolote. Mais alors après, pourquoi je prends à la fois cette histoire de Gilles que je mets en exergue ? Parce que c'est une vraie histoire de cyberpunk, parce que personne ne saura quand... À son enterrement, quand il y aura tous ses collègues de la boîte, personne ne savait que Gilles avait en fait une double vie et qu'il avait, c'est un joli conte, il avait truqué son entrée dans le monde informatique. Mais Gilles va me raconter des histoires absolument géniales. Alors là, je vais vous en raconter une. Je vais vous raconter un des contes informatiques, et il y en aura plusieurs pendant toute cette soirée. C'est-à-dire que je collectionne un peu les histoires emblématiques de notre histoire d'informatique. Alors en fait, c'est un joli conte, mais qui a tout justement du storytelling. C'est-à-dire qu'il avait suivi un stage de formation en Suède, et il est revenu de ce stage de formation en Suède en disant « On m'a raconté une histoire intéressante sur les pannes informatiques. » Parce que le problème, c'est de résoudre les pannes informatiques. Et souvent, les pannes ne viennent pas, évidemment, de l'informatique elle-même, mais du contexte dans lequel elle se situe. Alors là, l'histoire, vous l'avez peut-être déjà entendue, parce qu'elle est tellement archétypale. Ses formateurs lui disent « Alors voilà, c'est un énorme centre informatique qui tombe en panne. » Tous les dimanches soirs, entre minuit et minuit et quart. Alors à l'époque, un gros centre informatique, une panne d'un gros centre informatique, ça coûte des millions de francs. Donc, ils envoient des techniciens qui commencent d'abord à changer la moquette, qui n'était pas antistatique, qui changent toutes les cartes d'alimentation qu'ils peuvent trouver, qui vérifient si l'EDF, enfin, c'est pas l'EDF puisqu'on est en Suède, mais l'électricité ne subit pas des variations à ce moment-là. Ils vérifient s'il n'y a pas un département militaire avec des radars très puissants à proximité qui pourraient planter les machines, et ils ne trouvent pas. Ils trouvent pas. Et donc ils finissent par envoyer les techniciens, ils finissent par envoyer un ingénieur, un programmeur, qui étudie qu'est-ce que font les opérations, quelles sont les opérations que les gens sont en train de faire sur les machines au moment du bug qui intervient chaque fois, chaque dimanche, entre minuit et minuit et quart. Et au bout de 4 week-ends, le programmeur qui observe le personnel se rend compte qu'à chaque fois, quelques minutes avant que le bug n'ait lieu, il a vu passer dans le couloir, juste derrière la salle informatique, derrière la baie vitrée, un veilleur de nuit. Et qui a comme caractéristique étonnante, c'est pour ça qu'il l'a remarqué, qu'il est manchot. Il a une manche qui est relevée. Et le quatrième week-end, il décide de suivre le manchot, le veilleur de nuit manchot dans les couloirs. Et là, le veilleur de nuit manchot passe dans une salle qui est juste derrière l'unité centrale, derrière le gros bloc de l'unité centrale, qui en fait n'est pas une salle, c'est-à-dire que le mur, c'est une sorte de cagibi dont un des murs, c'est le dos de l'unité centrale. Et là, il a une espèce de boîtier dans lequel il doit mettre ses clés pour valider le fait qu'il est bien passé, qu'il a fait bien sa ronde. Or, comme il est manchot et que le lieu est dans l'obscurité, il a une lampe de poche avec un aimant dessus. Et en fait, il plaque la lampe de poche avec l'aimant sur le dos de l'ordinateur pour éclairer le boîtier dans lequel il doit mettre la clé. Et c'est cette action qu'il faisait entre minuit et quart qui faisait planter systématiquement le grand centre informatique. Voilà. Donc ça, c'était un de mes petits contes informatiques. De mes petites histoires informatiques, alors je vous en raconterai d'autres, mais je l'aime bien. Alors, j'ai du mal à croire à sa véracité. Elle est trop belle pour être vraie, c'est-à-dire le veilleur de nuit manchot est une trop, trop jolie image, hein, qui semble tout droit sortie d'un roman, et je pense que c'est un storytelling de formation, hein, pour ancrer en fait un mode de réflexion par rapport aux informaticiens, enfin par rapport au personnel informatique. Alors, on est à 57 minutes, hein, c'est ça ? Donc on approche, hein, Quentin, je crois, de la fin.
Tu peux prendre ton temps, mais a priori, ça commence à s'approcher, en effet.
On approche effectivement de la fin de l'émission. Donc,
il est 20h27.
Il est 20h27. Je vais vous parler des prochaines émissions, déjà. C'est-à-dire que la prochaine émission qui sera le mercredi 14 mars, hein, c'est ça ? Ou je me trompe ?
Ah ça, moi et les dates, moi et les dates.
T'es comme moi, hein, c'est ça. Mais a priori, la prochaine émission, ça sera mercredi prochain à 19h30.
C'est ça.
Ça sera sur le no-feedback existentiel et sur la cyberpunkitude ordinaire. Je vous parlerai de ce que moi j'appelle la réponse aux médias, c'est-à-dire comment nous, dans notre civilisation industrielle, nous nous construisons à travers les masses médias, comment les masses médias jouent un rôle de construction existentielle pour nous tous. Et surtout les jeunes actuellement. Je vous parlerai de l'addiction aux jeux vidéo à travers une proposition alternative qui est la narcose narcissique de Marshall McLuhan. Je vous raconterai encore des contes informatiques, je vous raconterai le message chez le médium et quelques autres petites histoires. Et dans l'émission numéro 3, je vous parlerai de la no-individuation des avatars, c'est-à-dire comment le 21 mars, comment nos avatars peuvent devenir vivants et se mettre à nous posséder, littéralement. Et on terminera avec l'émission du 28 mars, où je vous parlerai de notre groupe qui s'appelle Cyberesthésie, et on parlera justement physique, sensuel de la technologie du cyberespace, et on parlera aussi de cybersexe.
Tu vas avoir des invités, très, très non drôle.
Et alors j'aurai justement effectivement des invités, en tout cas pour la dernière émission, je suis sûr d'avoir deux invités, qui sont trois invités d'ailleurs. J'ai Swazik S, qui est une Swazik S, Sylvie Mexico et Pierre Clisson, qui sont les trois partenaires du groupe Cyberesthésie. Et en particulier, d'ailleurs, Pierre nous parlera certainement de la relation, je dirais, du chaos, de la magie du chaos magique.
Ah, très, très,
parce que c'est
très
un expert, c'est un hacker aussi, c'est un expert du hacking. Et donc, dans cette dernière émission, il interviendra pour nous raconter ses connaissances, les mystères autour du chaos magique et du hacking. Voilà, j'hésite encore à conclure. J'espère que vous avez passé un bon moment dans ces contes de la noosphère.
Moi, en tout cas, j'ai pas ressenti le besoin d'en placer une, tu vois.
C'est vrai.
Ce qui est rare chez moi, j'ai toujours envie de. J'aime bien parler. C'était passionnant. Ouais,
j'espère ne pas t'avoir. Trop frustré, tu peux.
Non,
pas.
Non, c'est vraiment. Alors là, j'aurais même pas une question. Non, c'est vraiment passionnant ce petit voyage en Oscaf. J'ai hâte qu'on soit le mercredi 14 mars à 19h30 pour recommencer.
Alors, je vais quand même remercier Silicon Maniac, et je vais aussi remercier Philippe Dalbret qui a fait une partie des éléments sonores que vous avez entendus. La plupart d'ailleurs des éléments sonores que j'ai, à part les créations de Philippe, que j'ai acheté sur Sounddogs, qui est un fournisseur de sons assez intéressant pour créer des univers virtuels. Et merci à tous et à la semaine prochaine.
Bonne soirée.